essence de l'église judéo-chrétienne de Bessarabie, conduite par Yosef Rabinovitch. Et donc, nous avions vu comment Rabinovitch avait été amené à créer donc l'église, ou plus exactement, il appelait ça la synagogue du Saint Messie Yeshua. C'était le titre qu'elle avait officiellement. Elle avait repris le terme synagogue, n'est-ce pas, la synagogue du Saint Messie Yeshua. C'est en 1884 qu'il avait reçu des autorités russes une autorisation pour rassembler dans cette synagogue ce qu'il appelait les Israélites de la Nouvelle Alliance. C'était évidemment un texte tiré de Jérémie 31. Et pour ce faire, il publie ce qu'il appelle un sidour messianique. Sidour, c'est le livre de prière, c'est-à-dire une liturgie. En fin de compte, Rabinovitch était très proche de l'Église luthérienne. Il était très influencé par l'Église luthérienne et il a repris beaucoup de la liturgie luthérienne dans ce fameux sidour qu'il avait donc installé. Il faut dire que cette influence venait tout simplement du fait que, bien avant la découverte de Yeshua par Rabinovitch, il y avait à Kitchinev un certain nombre de juifs qui avaient cru en Jésus et qui s'étaient joints à l'église luthérienne du lieu. Et déjà depuis un certain nombre d'années, ces juifs se sentaient un petit peu mal à l'aise dans cette église luthérienne et priaient pour que se puisse se créer une église judéo-chrétienne. C'était quelque chose qui n'existait pas encore du tout à cette période-là. Et lorsque Rabinovitch a créé donc sa synagogue de la Nouvelle Alliance, ils se sont joints, donc ils ont quitté l'église luthérienne et se sont joints à cette nouvelle entité. Ce qui fait que Rabinovitch a subi justement un peu l'influence du luthérianisme dans lequel ces gens avaient été nés spirituellement, si l'on peut dire. Rabinovitch s'est rendu compte très vite que, en tant que juif, les juifs évidemment étaient allergiques non seulement au message chrétien d'une manière générale, mais peut-être aussi à la manière dont il était formulé. Il était formulé dans des termes qui n'étaient pas toujours accessibles, n'est-ce pas, aux juifs. C'est pourquoi, par exemple, il avait abandonné le terme « église » pour reprendre « synagogue », ce qui signifie exactement la même chose, n'est-ce pas, qui est un terme qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Par exemple, Jacques écrit dans son épître « S'il survient un pauvre dans votre synagogue », c'est le mot « synagogue » qui est employé, qu'on ne traduit pas de telle manière en général, parce qu'on a des préjugés anti-juifs qui fait qu'on traduit par « église », mais le terme grec, c'est « synagogé », n'est-ce pas, la synagogue, ça, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas. Donc il reprend ce terme, et il va réfléchir, par exemple, sur la question de la Trinité. La question de la Trinité, le symbole de Nicée, lui pose problème, non pas tant la doctrine en elle-même que la formulation. Il estime que cette formulation n'est pas adaptée à un public juif, notamment la notion de personne, n'est-ce pas, les trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Rabinovitch, par contre, découvre dans la Kabbale, notamment, n'est-ce pas, une approche qui est une approche qu'on pourrait appeler « trinitaire », entre guillemets. Le mot choque les juifs, donc il évite de l'employer, même s'il croit profondément à la doctrine de la Trinité, comme tout enfant de Dieu véritable, mais le terme le dérange, pas lui tellement d'ailleurs, que c'est qu'aux religionnaires juifs, donc il va éviter d'employer le mot « Trinité ». Il reformule donc le dogme de Nicée dans un langage qui est accessible aux juifs. Et au lieu de parler de personne, il parlera de partsoufim, qui est un terme qu'on trouve dans la Kabbale, n'est-ce pas, par exemple dans le commentaire du Zohar sur la création du monde, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », n'est-ce pas, Elohim, la Kabbale a bien compris que là il y avait un pluriel qui dans la grammaire hébraïque implique un minimum de trois, et il dit bien Dieu est trois et en même temps il est un, comment est-ce qu'on peut comprendre ça, dit le Zohar, ça c'est le mystère qui ne peut être révélé qu'à ceux auxquels cela a été donné. Et trois, c'est quoi? Trois partsoufim, dit la Kabbale. Partsouf, c'est littéralement des visages. Partsouf, c'est le visage d'une personne. Dieu a trois visages, en quelque sorte, dit la Kabbale, n'est-ce pas? Rabinovitch reprend cette expression et il remplace le mot personne par le mot partsouf. Il dit voilà, il y a Dieu est un. Il reprend le schéma. Dieu est un. Il a créé le monde par sa parole et par. Il emploie aussi un terme qu'on trouve dans la Kabbale, par sa sapience. Sa sapience, c'est-à-dire par son esprit. Donc le Père, Dieu, le Dieu unique, la parole, le Fils, au commencement était la parole, et la sapience, l'esprit, n'est-ce pas, qui était aussi avec le Seigneur au commencement, qui planait au-dessus des eaux, n'est-ce pas. Alors, on peut dire qu'à ce niveau-là, Rabinovitch est absolument trinitaire. D'ailleurs, les pasteurs non-juifs qui seront amenés à se tenir avec lui, c'est toujours un point qu'ils élucideront. Mais par contre, il a un langage nouveau, il a un langage qui n'est pas le langage de la théologie traditionnelle, bien que la chose soit exactement la même. Alors, également, Rabinovitch se pose la question d'un certain nombre de rites juifs. Il se dit, dans une église, dans une synagogue de la Nouvelle Alliance, peut-on conserver un certain nombre de rites juifs? Et sa réponse va être oui. Quand on l'interroge à ce sujet, il va en particulier garder deux choses qui sont très importantes, qui lui semblent très importantes, la circoncision et le Shabbat. Alors quand on lui pose la question de savoir, mais un juif qui aurait cru en Jésus et qui ne respecterait pas ces choses, serait-il pécheur? Il répond non, il ne pêche pas, mais il se coupe de son peuple. Et il n'y a strictement aucune raison pour qu'un juif qui a cru en Jésus se coupe de son peuple. Or, pour pouvoir garder son identité Israël, peuple dispersé, et qu'il est encore à l'époque où vit Rabinovitch, n'est-ce pas, a gardé son indépendance, sa particularité, son identité, grâce à des signes, et notamment les signes de l'Alliance. Il y a deux signes de l'Alliance qu'il découvre dans la parole de Dieu, la circoncision et le Shabbat. Ce sont les signes de l'Alliance conclue entre Dieu et Israël. Par conséquent, il soutient et maintient, n'est-ce pas, qu'un juif qui croit en Jésus se doit de garder la circoncision et le Shabbat, non pas encore une fois comme une obligation morale, et encore une fois, celui qui ne le ferait pas ne pêche pas devant Dieu, mais pour continuer à s'identifier à son peuple. Hein, c'est son point. Et alors, il s'oppose tout à fait à l'idée que ces choses-là seraient indispensables au salut. Hein, ça, c'est pour lui la pierre de touche. À partir du moment où l'on croit que ces choses sont indispensables au salut, alors évidemment, là, on n'est plus dans la ligne, cette fois-ci, du Nouveau Testament. Il se trouve qu'au moment où Rabinovitch découvre la foi, il y a aussi un travail très intéressant qui vient d'être fait par le professeur Delitzsch. Professeur Delitzsch qui vient de traduire, qui est un hébraïsant, spécialiste du Talmud, n'étant pas juif lui-même, qui vient de traduire le Nouveau Testament en hébreu. Et l'hébreu est une langue qui est connue de beaucoup de juifs en Russie, même si ce n'est pas la langue parlée, qui est le yiddish. De telle manière que Delitzsch, indépendamment de Rabinovitch, distribue, n'est-ce pas, des milliers d'exemplaires du Nouveau Testament, 25 000 Nouveaux Testaments qui vont être distribués dans ces années-là par la Société biblique de Londres, Nouveau Testament hébreu, n'est-ce pas, et Rabinovitch va bénéficier de cette distribution massive d'évangiles. En mai 1884, deux autres familles se joignent à l'Église de la Nouvelle Alliance et Rabinovitch est bien conscient que tout autour de lui, il y a de nombreux Nicodèmes, ça veut dire de juifs qui ont cru, mais qui n'en font pas l'aveu ouvertement. Il obtient donc cette même année l'autorisation des autorités russes de se rassembler et de se rassembler comme juifs. Le gouvernement russe, qui à ce moment-là dans la loi de l'Empire tsariste, religion doit être reconnue par l'État et demander une reconnaissance officielle par l'État. Donc tout lieu de culte nouveau doit obtenir une telle autorisation. Donc Rabinovitch en fait la demande aux autorités de Saint-Pétersbourg, qui voit son itinéraire d'un très très bon œil. C'est tout à fait intéressant, alors que le gouvernement tsariste est extrêmement antisémite à cette période-là, le cheminement de Rabinovitch est très bien vu. Et le gouvernement russe accorde à Rabinovitch toutes les autorisations qu'il veut en tant que synagogue juive. Il est reconnu non pas en tant qu'église chrétienne, mais en tant que synagogue juive. Et même, n'est-ce pas, un coin du cimetière juif est lui réservé dans, à Kitchinev. Ce qui, évidemment, fait grincer des dents énormément aux juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Et il obtient les autorisations de tenir des réunions un peu partout, en dehors de son lieu de culte, mais cette fois-ci uniquement à titre personnel. Le 24 décembre, il reçoit l'autorisation de former des assemblées partout où il l'entend, et c'est ainsi que le jour de Noël de cette fameuse année 1884 est inaugurée la synagogue du Saint-Messie Yeshua, synagogue de la Nouvelle Alliance. La salle est comble, n'est-ce pas ? C'était absolument bourré de gens. Plusieurs centaines de personnes se pressent dans cette salle. Et Rabinovitch, qui prêche en yiddish et en hébreu, n'est-ce pas, commence par lire des prophéties messianiques sur la venue de Jésus. Il prêche ensuite sur ces textes, montrant que Jésus accomplit, la venue de Jésus à Noël a accompli ses prophéties messianiques, puis il termine par la lecture d'un poème qu'il a lui-même écrit. Alors, le thème de sa prédication était celui-ci: en quoi cette nuit de Noël est-elle différente de toutes les autres nuits? Il reprend à ce moment-là, bien sûr, la Haggadah de Pâques, n'est-ce pas? Et là, il la transpose dans cette nouvelle vision. Et alors, il va donner à ce lieu de culte le nom de Bethléem. La synagogue va porter le nom de Bethléem. Et c'est ainsi que naît, à partir de l'année 1885, le mouvement messianique. Le mouvement messianique proprement dit, qui va rassembler, qui va toucher pendant ces années-là, jusqu'au début du siècle, n'est-ce pas, il va toucher à peu près 50 000 juifs. C'est quand même assez impressionnant et considérable. Ce sont les pogroms de 1903 qui vont donner un coup d'arrêt, n'est-ce pas, à l'expansion du mouvement, lorsqu'on dénombrera parmi les messianiques 49 morts et 300 blessés. En 1905, un autre pogrom fera à son tour 19 tués et 56 blessés parmi les fidèles de Rabinovitch. Et puis, en 1918, Kitchinev redeviendra roumaine après le traité de Versailles, puis ensuite redeviendra russe. Et tout ça va mettre fin à l'aventure, si vous le voulez. En 1946, n'est-ce pas, après la Deuxième Guerre mondiale, sur 65 000 juifs qu'il y avait dans la région, 53 000 seront assassinés par les nazis, et alors les derniers survivants de l'épopée de Rabinovitch disparaîtront dans la Shoah, soit même massacrés, soit après qu'ils se soient enfuis. Par exemple, Rabinovitch, sur son passeport, aura toute sa vie la mention juif. Il continue à se considérer lui-même comme juif, et il continue à être considéré comme juif par les autorités russes. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas employer le terme chrétien, mais il emploie le terme messianique. Juif chrétien, ça ne peut pas se dire, n'est-ce pas ? Ou on est juif, ou on est chrétien dans la conception juive. Si l'on est chrétien, on cesse d'être juif. Un juif qui a cru en Jésus, qui devient chrétien, cesse d'être juif. Et dans la conception chrétienne normale, il en va de même. Hein? Par exemple, l'Inquisition était très stricte sur ce point-là. Tout juif qui croyait en Jésus cessait d'être juif à part entière, devait signer un engagement comme quoi il s'engageait à ne plus avoir aucune relation avec le judaïsme, avec les fêtes juives, avec ces choses-là. Il prenait un nouveau nom d'ailleurs, n'est-ce pas, aussi bien un prénom que patronyme, pour montrer qu'il avait complètement rompu avec l'hérésie juive. Rabinovitch est le premier justement qui entend rompre avec cette conception tant juive que chrétienne, si vous voulez, qui jugeait que les deux réalités étaient incompatibles. Il se voulait 100% juif et 100% chrétien, si j'ose dire, et c'est la raison pour laquelle il emploie l'expression « juif messianique ». Juif messianique, ça veut dire « Mashiach », c'est le Messie, n'est-ce pas, qui a cru au Messie, finalement, c'est chrétien, parce que chrétien, c'est celui qui a cru en Christ. Christ, c'est quoi? C'est le Messie, mais c'est le terme qu'emploient les goyim. Les juifs emploient le mot Mashiach, et c'est la raison pour laquelle Rabinovitch emploie l'expression juif messianique. Alors, pour lui, il considère que les juifs qui n'ont pas cru en Jésus ne sont pas messianiques. On ne peut être messianique que si on a cru au Messie Jésus. Puis ensuite, il va ajouter un autre terme aussi, parce qu'on lui reproche d'annexer le mot messianique, qui est en quelque sorte un mot qui appartient à l'ensemble du peuple juif. Les autres disent, mais nous aussi, nous sommes messianiques, parce que nous croyons en l'avenue du Messie. Nous attendons l'avenue du Messie, donc nous sommes messianiques. Alors finalement, Rabinovitch ne reniera pas le terme messianique, mais il ajoute un autre point, les juifs croyants. Encore aujourd'hui, les juifs messianiques, en Israël et aux États-Unis, par exemple, emploient cette expression qui est synonyme de juif messianique ou juif croyant. Et alors, il appelle sa communauté, les gens de sa communauté, Yehudi Misherim Shel Abrit Achadasha, les juifs messianiques de la Nouvelle Alliance. Comme ça, au moins, les choses sont claires. La Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Nouveau Testament, c'est la traduction en vieux français, n'est-ce pas, de l'expression Brit Hadasha qu'on trouve dans Jérémie 31. Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance, Brit Hadasha, un Nouveau Testament. Alors lui, il reprend, il retraduit en hébreu, n'est-ce pas, il n'emploie pas le mot Nouveau Testament, il emploie le mot Nouvelle Alliance, tout simplement. Alors, pour lui, en croyant en Yeshua, notre frère Yeshua, toujours le terme qu'il emploie, on devient un véritable fils d'Israël. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le nouveau mouvement est considéré par les autorités russes, encore une fois, comme une branche du judaïsme. Les autorités russes entrent à fond dans sa vision. C'est tout à fait extraordinaire. Et le mouvement va se répandre dans toute la Bessarabie. C'est pas simplement dans la ville de Kitchinev, et à partir de la Bessarabie, dans la Russie tout entière. Il y aura des communautés messianiques jusqu'à Saint-Pétersbourg, dans l'entourage même du tsar. Rabinovitch va avoir une vision qui sera reprise par M. Kosman, parce que là, M. Kosman est vraiment l'héritier de Rabinovitch dans ce domaine-là. Beaucoup de juifs qui ont cru, n'est-ce pas, en Jésus, perdent leur travail. C'est parce qu'ils travaillaient dans des entreprises juives qui les licencient à cause de leur foi. Et Rabinovitch comprend qu'il faut absolument donner du travail à ces jeunes gens. Et alors, il entend créer une colonie agricole juive pour permettre justement de recueillir tous ces gens qui sont sans travail. Là, il va échouer. Le gouvernement russe, enfin, ne sera pas hostile véritablement, mais bon, différents facteurs vont faire que cette colonie juive ne verra jamais le jour. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de constater qu'à presque 60-70 ans de distance, Zev Kaufman échouera sur le même problème. Il aura aussi la même vision et il échouera sur le même problème. En 1885, Rabinovitch se rend en Allemagne. Le but, c'est d'être baptisé. Il a cru, mais il n'a pas été baptisé. Et bien entendu, il comprend, en lisant la Bible, le Nouveau Testament, qu'il doit être baptisé. Et c'est ainsi que le 14 mai de cette année 1885, il est baptisé à Berlin, baptisé d'ailleurs par aspersion. Encore une fois, l'influence luthérienne se fait sentir là, n'est-ce pas, et Rabinovitch baptisera les bébés. D'ailleurs, il y voit là aussi un point avec la circoncision. Un certain nombre de pasteurs baptistes, disons, enfin de tradition baptiste du moins, essaieront de l'éclairer sur le baptême des croyants, mais apparemment, jusqu'à sa mort, il restera dans la vision pédobaptiste. Ça, c'est un point faible. À Berlin, il est baptisé dans une église méthodiste où l'on baptise les enfants. Et donc là, il reste dans cette tradition-là. Au moment où il va être baptisé, il lit une confession de foi qu'il a rédigée lui-même, dans laquelle, justement, il entend, il précise bien que son baptême n'est en rien une répudiation du fait qu'il soit juif. Le baptême est, dans la tradition juive, le point de rupture, quoi. Quelqu'un qui a été baptisé a vraiment rompu avec le judaïsme. Et là, au moment où il va être baptisé, Rabinovitch réaffirme bien haut et bien fort que il est baptisé, mais il ne répudie pas son judaïsme, il ne répudie pas son appartenance au peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle aussi il refuse d'être assimilé à une dénomination. Il est proche du luthérianisme, il est proche du méthodisme, mais il refuse d'être intégré dans une de ces dénominations, car pour lui, en tant que juif et en tant que pasteur d'une communauté juive, il ne se reconnaît dans aucune des dénominations existantes qu'il considère être le système des dénominations lui paraît être anti-biblique et le résultat, justement, comme il l'expliquera dans ses écrits, de la dérive de l'Église par rapport à Israël, par rapport au judaïsme. Rabinovitch, donc, rassemble ses fidèles le jour du Shabbat, puisque pour lui, le Shabbat n'a pas été aboli, et reste le signe de l'alliance entre Dieu et Israël, mais ce qui n'empêchera pas de tenir des réunions le dimanche pour les non-juifs. Il a aussi un ministère auprès des non-juifs, à la fois donc un ministère d'évangélisation classique, pourrait-on dire, et en même temps aussi un ministère d'ouverture, d'amener ces non-juifs à s'ouvrir justement au mystère d'Israël. Entre ces années-là, 1884 et 1885, qui sont des années de profonde réflexion pour lui, où il pose les fondements, Rabinovitch va aussi avoir une réflexion théologique très profonde. Et la première de ces productions théologiques, pourrait-on dire, ce sont les 24 articles. 24 articles de foi dans lesquels il résume justement ce que sont les bases théologiques du mouvement messianique. Tout à fait intéressant de savoir que ces choses-là ont été donc reprises par Zev Korsman quand il est arrivé en Israël. Les 24 articles, pourquoi 24? Parce que il imite, si vous voulez, la confession de foi de Maïmonide, qui est la confession de foi juive, qui comprend précisément 24 articles. Et chacun des 24 articles de Rabinovitch commence, comme les articles de Maïmonide, par « Je crois avec une foi parfaite ». C'est l'expression qu'on trouve donc dans ce domaine-là. Et Rabinovitch commence par réaffirmer dans ses 24 articles que la foi en Jésus, notre frère Yeshua, n'est-ce pas, ne coupe pas le juif de sa communauté, de son peuple, de son appartenance et des alliances qui ont eu lieu avec le Seigneur. Mais il réaffirme aussi que pour cette raison, le juif messianique peut et même doit, n'est-ce pas, respecter la circoncision, le Shabbat, voire même un certain nombre de fêtes. Il réaffirme aussi que Dieu a créé toutes choses par le Saint-Esprit. Bon, ça c'est les déclarations de foi tout à fait normales. La circoncision est une alliance éternelle. Le Shabbat et Pessah ont été introduits par le Seigneur pour toujours et doivent être donc respectés aussi par les Juifs, notamment la fête de Pâques. La résurrection, qui est un article de foi essentiel qu'on trouve dans la déclaration de foi de Maïmonide, est réaffirmé avec force, mais lié avec la résurrection de Jésus. Cette déclaration de foi est accueillie d'une manière un peu mitigée par les pasteurs chrétiens, n'est-ce pas, qui la voient. On ne la trouve pas assez trinitaire. Et de fait, Rabinovitch est un petit peu gêné encore avec cette question-là. Et il n'a pas tellement encore élaboré sa doctrine des trois parties ou films dont nous avons parlé tout à l'heure. Si bien que quelques temps plus tard, il publie les 7 articles. Qui est une confession ou un symbole de foi, qui vont être intégrés d'ailleurs dans les 24 articles, mais enfin disons où il précise sa pensée justement, notamment sur la question de la Trinité. En fait, il s'est beaucoup inspiré de la confession de foi de Westminster, et il affirme notamment aussi, ce sur quoi on l'avait critiqué, que les Juifs n'ont pas à célébrer les fêtes, si ce n'est par souvenir pour Yeshua, les fêtes chrétiennes, s'entend, n'est-ce pas ? ça, évidemment, ça, c'est assez mal vu, qu'on puisse ne pas respecter les fêtes chrétiennes, n'est-ce pas, quand on croit en Jésus, je sais pas, moi, Noël notamment, n'est-ce pas, ça, c'est surtout Noël qui fait problème, parce que Pâques, Pentecôte, bon, ça ne lui pose pas tellement de problème, mais c'est surtout Noël, n'est-ce pas. Alors là, il maintient son point, il prétend que lui... se sent pas du tout concerné par une fête dans laquelle il voit un relent de paganisme, dans la mesure où c'est une ancienne fête pagane, celle du solstice d'hiver, etc. Par contre, il répudie totalement le Talmud. Il déclare « Le Talmud a été pour nous une pierre d'achoppement. Le péché originel est réaffirmé, c'est la corruption de la nature humaine qui nous entraîne toujours vers le mal. Et en rendant difficile la soumission à la Torah de Dieu, de l'homme, naturel. Et Jésus est apparu justement pour cela. Bon, il réaffirme aussi la naissance virginale, mais il ne veut pas l'expliciter. Il dit que c'est un mystère dans lequel il ne veut pas entrer. Il dit que aller plus loin que affirmer ce que la Bible affirme, c'est entrer dans des spéculations. Ensuite, il affirme que l'Église a la liberté d'introduire des règles et des observances selon les besoins qui sont les siens, à condition qu'il ne soit pas contraire ni à la Bible, ni à une méthode d'exégèse qui consisterait à opposer un verset à l'autre. Il observe la Sainte Cène, mais pour ce faire, il introduit une Haggadah messianique. Pour lui, la Sainte Cène est, est un céder de Pâques simplifié. Et plutôt que de prendre la Sainte Cène selon la liturgie traditionnelle des églises chrétiennes, il va créer une sorte d'Agada simplifiée, n'est-ce pas, dans laquelle il rappelle la sortie d'Égypte et la mort de Jésus, sa résurrection, son salut, etc. Bon, ça c'est une chose qui est tout à fait importante. Il lit à chaque Shabbat un texte de la paracha, puis ensuite un passage du Nouveau Testament, et ce qui fait que le culte est très long. Chez Rabinovitch, il dure à peu près 2 heures. Selon la manière juive, il n'accepte aucune forme de musique dans les synagogues comme dans les synagogues. Il n'y a pas de croix dans son église, si ce n'est une menorah. Parmi la liturgie aussi, il y a la récitation du schéma, puis du psaume 103, Mon âme bénit l'Éternel, et puis on termine par le chant de réception du Shabbat, Lecha Dodi, viens mon bien-aimé, etc. Et il termine par la bénédiction des prêtres. Rabinovitch estime que la Torah n'est pas, et pour le juif messianique, une Torah de liberté. Il prend le texte de Jacques 1, verset 25, de Jacques 2, verset 12. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ça veut dire qu'en dehors de la circoncision et du Shabbat, il estime que le juif, à l'image de Paul, a la liberté de respecter les commandements de la Torah à sa convenance. C'est-à-dire que s'il veut respecter les fêtes, il peut respecter les fêtes. À la limite, s'il veut respecter même la cacheroute, il peut le faire. Mais il peut aussi ne pas le faire. Et il peut le faire à certains moments, ne pas le faire à d'autres. Il est libre. Il est libre dans ce domaine-là. Et libre en fonction justement du tout à tous, se trouvant parmi des juifs, il pourra par exemple prendre part à certaines cérémonies auxquelles il ne participerait pas en d'autres temps. C'est un peu la pensée. Et là, je crois que c'est tout à fait cohérent avec ce que fut l'attitude de Paul, justement, telle que nous le voyons dans le Nouveau Testament. Au début, l'assistance au culte est d'environ d'une centaine de personnes. Il effectuera un certain nombre de voyages, notamment le 5 octobre 91 à Budapest, pour que sa femme y soit baptisée par un rabbin qui a cru aussi en Jésus. Rabinovitch prendra aussi fermement position contre l'antisémitisme qui monte de son temps en Russie, et il affirme que l'expression qu'il emploie constamment, notre frère Yeshua, est une protestation contre l'antisémitisme. Si Jésus est notre frère, ça veut dire qu'il est juif, Et ça veut dire que s'en prendre aux frères de Yeshua, c'est s'en prendre à Jésus lui-même, ce qu'avait dit d'ailleurs en son temps Bernard de Clairvaux, quand il avait essayé de faire cesser justement les massacres des croisades, comme nous le voyons en ce moment en histoire d'Israël. Avec le temps, Rabinovitch a perdu ses rêves sionistes. Il avait été sioniste, nous l'avons vu tout à fait au début de son épopée. Et puis, finalement, là, il va dire, bon, ben, le temps n'est pas encore venu. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur lui avait dit quand il avait été il a eu sa fameuse révélation sur le mont des Oliviers. Mais il ne renie pas la foi dans le retour d'Israël. Et un jour, n'est-ce pas, à l'heure de Dieu, eh bien, le Seigneur nous rassemblera sur la terre d'Israël. C'est cette attitude-là qui l'amènera, par exemple, en 1899, de critiquer Herzl. Il prendra ses distances vis-à-vis d'Herzl et il reproche à Herzl le manque de dimension spirituelle de son mouvement, d'être un mouvement laïque. Il critique aussi pour la même raison les amants de Sion. Là, mais pourtant, il envisagera dès 1890 de transférer son centre à Jérusalem et d'émigrer en masse. Bon, ça ne se fera pas, n'est-ce pas ? Mais il y pensait. Les positions de Rabinovitch vont finir par provoquer chez un certain nombre de pasteurs chrétiens des réactions négatives. C'est la première fois que dans l'histoire, depuis les origines en tout cas, n'est-ce pas, on voit ainsi paraître une église judéo-chrétienne qui a des positions aussi audacieuses sur justement les rapports entre l'église et Israël et le peuple juif. Et un certain Faltin, qui est le pasteur luthérien de Kitchinev, va se dresser contre lui. Il accuse Rabinovitch de se couper de l'Église universelle en gardant le Shabbat et la circoncision, et donc en reconstruisant le mur de séparation que Jésus a détruit par son sang. Pour lui, un juif qui croit doit automatiquement renoncer à son identité juive, ce qui est la position traditionnelle de l'Église et la position d'une grande partie de l'Église chrétienne, y compris dans les milieux évangéliques, jusqu'à maintenant. Il emploie le terme de Jésus, c'est pas celui qui aime son peuple plus que moi n'est pas digne de moi. Ça n'a rien à voir, n'est-ce pas ? Enfin bon, voilà le genre d'argument pseudo-théologique, n'est-ce pas, qui est employé. Et il accuse Rabinovitch d'être un ébionite, c'est-à-dire cette secte, entre guillemets, secte, n'est-ce pas, judéo-chrétienne du premier siècle, des premiers siècles, du deuxième, quatrième siècle très exactement, qui a fini par être excommunié par la Grande Église, qui était une secte véritablement hérétique au demeurant, parce qu'elle niait la divinité de Jésus, mais Rabinovitch ne le faisait pas, n'est-ce pas, alors il n'était pas du tout... ses accusations étaient malveillantes, fausses et erronées. Pour l'heure, Rabinovitch n'a que faire de ses critiques. Il continue à prêcher l'Évangile sans se préoccuper de ses adversaires. Il a deux lieux de culte à Kitchinev qu'il appelle Bet Fila et non pas église, maison de prière. C'est le terme qui est employé en hébreu, n'est-ce pas, aussi pour désigner des synagogues. Chacun de ces lieux de culte a 150 places, donc à peu près 300 personnes. Il fait deux services chaque Shabbat. Et il considère, n'est-ce pas, que le Messie est là, n'est-ce pas, il est la Torah faite chair, la Torah incarnée. Alors il a des rouleaux de la Torah dans ces lieux de culte. On lit la paracha de la Torah directement, puis ensuite sur la table il y a un Nouveau Testament dans lequel on lit. Il fait aussi dans sa liturgie là une place pour la lecture des 10 commandements, des 10 paroles. Une chose aussi qu'il faut noter, c'est que Rabinovitch n'a jamais reçu l'autorisation des autorités russes pour donner les sacrements Sainte-Cène et baptême. Donc il le fait, disons, clandestinement. Bon, il le fait ou il le fait pas d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il affirme que les apôtres n'ont pas à lier des fardeaux trop lourds sur les épaules des non-juifs Et pour cette raison, il estime que toute une tradition chrétienne n'est pas biblique et doit être revue et corrigée. Et évidemment, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, notamment à des gens comme le pasteur luthérien ou d'autres, n'est-ce pas ? Il considère d'un œil assez sympathique la Kabbale, dans laquelle il voit un certain nombre d'intuitions qui conduisent à Jésus, qui conduisent à Yeshua, n'est-ce pas ? Alors, donc, nous l'avons dit, il a créé une Agada messianique, et la Sainte-Seine se prend avec les quatre coupes chez lui, les quatre coupes qu'il y a de Pessar, la première coupe, la coupe d'Abraham, la deuxième coupe, la coupe de Moïse, la troisième coupe, celle de David, et puis la quatrième coupe, la coupe du salut, la coupe des délivrances, donc la coupe de Yeshua. Pour lui aussi, notre frère Yeshua est la clé de la Terre Sainte. Et il se bat pour le nom de Yeshua. Vous savez que les Juifs n'emploient pas le nom de Yeshua, mais le nom de Yeshu. Yeshu, ce qui est un anagramme qui signifie que son nom soit retranché. Alors, pour cette raison-là, Rabinovitch réemploie le nom de Yeshua. Et il se bat à fond pour que la réhabilitation de Jésus de cette manière-là. En 1895, il visite les États-Unis, il se rend chez Moody. Il a contact avec Moody, qui le reçoit très favorablement. Il a un très très bon contact avec Moody. Mais par contre, il est très très déçu par les États-Unis, d'une manière générale. Il estime que vivre aux États-Unis, c'est pire que d'être persécuté en Russie. C'est ce qui l'effraie essentiellement, c'est la mondanité. C'est l'époque où beaucoup de Juifs, justement poussés par la persécution, émigrent aux États-Unis. C'est l'époque de l'afflux d'immigrants aux États-Unis. Et s'était rendu aux États-Unis aussi pour voir dans quelle mesure, dans le contexte de persécution qui montait aussi en Russie, il ne serait pas possible d'émigrer là-bas. Mais bon, ce qu'il voit là-bas le décourage totalement. C'est pas pour lui, les Juifs n'ont rien à faire aux États-Unis. Il forme des évangélistes qui vont aller évangéliser les Juifs de Russie, avec l'aide de son fils, qui a cru en même temps que lui, n'est-ce pas ? Indépendamment de lui. Et c'est tout à fait intéressant de noter que la plupart de ses prédications se trouvent à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. En 1896, il reprend l'idée de partir en Israël. Les États-Unis ont déçu, finalement, que reste-t-il aux Juifs ? Eh bien, la terre d'Israël. Alors, il veut créer là-bas une espèce d'école biblique. Il traduit le Nouveau Testament en yiddish, parce que finalement, les Juifs ne possèdent pas très bien l'hébreu, alors il va traduire le Nouveau Testament en yiddish, ce qui n'a jamais été fait. Et c'est alors qu'il est surpris par la maladie. Et là, ses projets vont être réduits à néant par la maladie, et il meurt en 1899, après avoir donné à ses enfants la bénédiction des prêtres. Il n'a pas de successeur, véritablement, et il a prié pour que Dieu lui en suscite un, et Dieu lui avait montré qu'il y en aurait un plus tard. Si bien que son œuvre, après sa mort, stagne jusqu'en 1803. Les pogroms, j'ai évoqué tout à l'heure, qui font que l'œuvre va se désintégrer avec le temps. C'est la débandade après le pogrom. Et puis, finalement, on pourrait conclure que c'est l'échec du mouvement. On peut dire qu'est-ce qui reste de son mouvement ? Qu'est-ce qui est resté de son mouvement après les pogroms ? Sa famille, il avait trois fils et trois filles d'abord. Un de ses fils est devenu ingénieur des chemins de fer en Roumanie. Les deux autres fils ont étudié à l'université de Moscou. Il avait trois filles. Qui se nommait Sarah, l'aînée se nommait Sarah. Son mari est mort en 1883. En 1911, sa plus jeune fille, qui se nommait Rachel, s'est mariée elle a eu un fils, n'est-ce pas ? Le fils qui s'est réfugié en 1919 en Grande-Bretagne, comme réfugié de guerre. Il va avoir une fille de là-bas qui, elle, va venir habiter en France. Et en 1828, cette femme s'installe en France. Elle survivra à la Deuxième Guerre mondiale. et c'est elle qui recueillera en quelque sorte l'héritage spirituel de Rabinovitch, de son grand-père, ce qui, notamment justement tout ce qui concernait sa vision de la Nouvelle Alliance, sa vision du mouvement messianique. Et Rabinovitch avait donné l'ordre à son fils, à ses enfants plus exactement, à donc Rachel qui était la dernière, de transmettre à son successeur, celui que le Seigneur susciterait en son temps, pour recréer justement ce mouvement sur la terre retrouvée, quoi, sur la terre ancestrale, de transmettre tout ce dossier, quoi. Et c'est ainsi que, en 1948 exactement, au moment de la création de l'État d'Israël, cette dame, qui était une dame âgée à cette époque-là, a rencontré Zev Kaufman, qui partait donc en Israël, et lui a remis donc le fameux dossier de Rabinovitch. Alors on peut dire, bah oui, humainement parlant, le mouvement s'est soldé par un échec, hein. Un certain nombre d'églises messianiques en Russie créées en Bessarabie sont devenues baptistes. Et les baptistes ont fait un travail important parmi les juifs à partir de cette période-là. Ils ont créé aussi, en 1828, sous l'influence justement du fils de Rachel, une église hébreu-chrétienne. On n'appelait pas le mot messianique, mais ils appelaient ça le mot hébreu-chrétienne, qui gardait le Shabbat, les fêtes juives et Noël, pour faire plaisir à tout le monde. N'est-ce pas ? Alors oui, c'est ça. En 1940, un descendant de Rabinovitch aussi est revenu à Kitchinev. Mais les nazis sont arrivés là-dessus. Et à la fin de la guerre, il ne restait plus à Kitchinev qu'un seul juif messianique qui avait survécu. À Kitchinev même, le travail ne fut jamais recommencé. Et c'est en 1948, donc, la suite du mouvement a commencé, on peut dire, à Haïfa. L'hospice Ebenezer, la maison d'enfants Ebenezer, sous la direction donc de Zev Kaufman et de sa femme. Donc, humainement parlant, ce fut l'échec total, mais spirituellement, bien, il y a eu une renaissance, quoi. C'est passé par une mort et une résurrection, comme il l'avait entrevu d'ailleurs prophétiquement lui-même, quand le Seigneur lui avait montré que ce n'était pas tellement pour lui, mais que c'était pour quelqu'un qui viendrait après lui, pour lequel il devait se préparer. Et là, vraiment, les voies de Dieu ont été absolument mystérieuses pour conduire justement à la résurrection de l'Assemblée messianique dans notre siècle. Mais ça, ce n'est pas notre sujet, parce qu'on étudie le 19e siècle. Quand on étudiera le siècle prochain, c'est-à-dire bientôt, l'histoire de l'Église au 20e siècle, eh bien, on reviendra sur ce sujet-là. Dans la relation avec Israël, il y a un autre homme de Dieu très important qu'il nous faut évoquer, après Yosef Rabinovitch, c'est William Eschler. À l'inverse de Yosef Rabinovitch, William Eschler, lui, n'était pas juif du tout. Et William Eschler se trouvait dans la grande tradition des chrétiens britanniques, essentiellement anglo-saxons, disons, de manière plus large, qui avait une ouverture sur Israël. Cette ouverture commence du temps de Cromwell en Angleterre, qui rappelle les Juifs, sous la pression d'un certain nombre d'hommes de Dieu, comme premier pas vers la restauration nationale d'Israël. Dans l'entourage de Cromwell, et de la part de Cromwell lui-même, il y avait la foi qu'un jour, le peuple d'Israël serait rassemblé dans sa terre et redeviendrait un État. Par exemple, la reine Victoria croyait cela aussi. Elle-même, d'ailleurs, se considérait comme descendante du roi David. Et au début de ce siècle, aussi naîtra en Angleterre un mouvement tout à fait curieux qui existe encore, qu'on appelle British Israel, selon lesquels le peuple anglais et une des 10 tribus perdues. Et on est en plein dans ces histoires des 10 tribus perdues. Et par conséquent, la reine d'Angleterre et la monarchie anglaise est une résurgence de la royauté davidique, en quelque sorte. N'est-ce pas ? Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre de chrétiens anglais croyaient que l'Angleterre avait un rôle particulier à jouer dans la restauration d'Israël et les choses de la fin. La déclaration Balfour, qui était une déclaration essentiellement politique, bien sûr, sera inspirée un peu par cette idéologie-là quand même. Et beaucoup de chrétiens vont pousser à la déclaration Balfour et saluer ensuite la déclaration Balfour comme l'accomplissement de ce qu'était leur vision, à savoir du rôle particulier que l'Angleterre devait jouer dans la résurrection d'Israël. Aux États-Unis, il y avait un mouvement un peu semblable, et par exemple John Adams, qui était le deuxième président des États-Unis après Washington, lui aussi croyait à la résurrection du royaume d'Israël. Et à la fin du siècle, du 19e siècle, donc, se tient à Berlin une conférence qui a pour thème « Conference for Christians and Jews », qui déclare que les Juifs doivent revenir dans leur pays. En 1797, déjà, cette affirmation avait été celle d'un certain Isaac de la Peyrère, tandis que deux ans plus tard, en 1799, un plan sioniste avait déjà été édicté par un certain nombre de chrétiens anglais. En 1839, l'Église d'Écosse, l'Église presbytérienne d'Écosse, avait envoyé en Palestine une commission d'enquête qui, à son retour, avait demandé aux monarques européens de prendre l'initiative de restaurer le peuple juif sur sa terre. Donc, c'était un mouvement qui était dans l'air. Dès lors, s'ouvre dans la presse anglaise ce qu'on appelle le débat sioniste. Et l'Angleterre était préparée donc à accueillir le mouvement sioniste. Un pasteur anglais, dans ces années-là, s'appelle Mark Cole, est un homme qui croit à la résurrection d'Israël et qui va influencer des hommes politiques anglais tels que Lord Shaftesbury et Palmerston à militer pour la cause de Sion. Et ce sont eux qui préparent justement la déclaration Balfour. En 1804, l'évêque de Rochester annonce que la résurrection d'Israël aura lieu dans les années 60 de ce siècle. Bon, se tromper, mais pas en tout cas sur le fond de la chose. En tout cas, 1860, c'est exactement l'année de la naissance de Herzl. Alors peut-être que là, on peut penser qu'il ne s'est pas tout à fait trompé. Les Anglais étaient un peuple qui avait un grand amour de la Bible. La Bible était... Le peuple anglais était sensibilisé à ce problème, justement, de la résurrection d'Israël. Les premiers puritains qui avaient redécouvert la mission d'Israël, c'était donc d'abord Thomas Brigham, Brighma, c'est date 1562-1607, qui avait annoncé que l'Empire turc prendrait fin et serait la domination des Juifs dans tout l'Orient lui succéderait. Bon, la source peut se tromper, mais pas sur l'effondrement de l'Empire turc. Un deuxième puritain, c'était Jill Fletcher, 1549-1611, qui fut ambassadeur d'Élisabeth Ière en Russie, où il était allé d'ailleurs chercher les 10 tribus perdues, ce qui montre la vision qui était la sienne déjà à cette période-là. Un peu plus tard, on trouve Dan Holger, H-O-L-G-E-R, 1644-1714, qui lance une publication invitant les rois d'Europe à reconquérir la Terre Sainte pour en faire don aux Juifs. Puis alors, ensuite Darby, bien entendu, Darby qui a été lui aussi un homme qui a cru au retour d'Israël. George Goller, qui était un officier anglais qui a participé à la bataille de Waterloo, et qui a proposé un plan de colonisation d'Israël par les Juifs avant d'être nommé gouverneur d'Australie, parce qu'on trouvait qu'il avait des idées un peu trop bizarres, alors on l'envoyait très loin. Enfin, il n'a jamais cessé de croire au retour d'Israël. Et puis, en 1704, un certain Nathanael Grouch envisageait de peupler le pays d'Israël de 4 millions de Juifs, et il avait... Son plan, qui était très très détaillé, a été repris par les leaders sionistes dans les premières années de la reconstruction de l'État d'Israël. Il avait des idées tout à fait cohérentes et tout à fait intéressantes. Il voyait dans la présence de Juifs en Palestine un jalon très important pour la politique coloniale anglaise parce qu'il estimait que la Palestine était un point très important sur la route des Indes. L'idée que reprend en 1840 Lord Palmerston, qui lui-même est influencé par les chrétiens sionistes, pourrait-on dire, et lui aussi demande au gouvernement anglais de favoriser le retour des Juifs. Il se fera d'ailleurs le champion de l'idée du retour des Juifs dans leur pays. Ensuite, il y a un chrétien qui se nomme Lord Oliphant, qui se convertit après une vie très tumultueuse, très matérialiste, très aventureuse, et qui, en 1879, publie ce qu'il appelle le projet Gilad. C'est-à-dire, il propose que le sultan donne aux Juifs une charte pour coloniser la Transjordanie, et qui est pratiquement un désert. Refus du sultan, mais enfin, le projet avait été lancé. 1881, les pogroms, donc, de Russie, qui rendent soudain la question juive urgente. Hein, ce qui va d'ailleurs déclencher le sionisme de Theodor Herzl. Lord Oliphant finira sa vie d'ailleurs à Haïfa, tellement il était passionné par son plan. Il y a ensuite alors un Italien, un catholique italien. C'est tout à fait intéressant de voir que les catholiques n'ont pas été tout à fait en dehors du mouvement. Alors celui-là est homonyme d'un personnage tristement célèbre avec lequel il n'a strictement rien à voir, si ce n'est son nom. Il s'appelle Benito Mussolini. Ça n'a rien à voir avec le Mussolini plus connu, n'est-ce pas? Ce Mussolini-là était membre des brigades de Garibaldi qui ont pris part à la libération de Rome. Et en 1851, déjà, ce Mussolini-là a envisagé une sorte de loi du retour en ce qui concernait les Juifs. Et il envisageait, par exemple, la création d'une principauté juive qui serait appuyée par la Grande-Bretagne et dont la langue officielle serait l'hébreu. Et puis enfin, il y a le secrétaire de Napoléon III, qui se nommait Ernest Lahane, qui lui aussi a essayé d'amener Napoléon III à favoriser le retour des Juifs en Palestine. Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, a participé au premier congrès sioniste à Bâle. Lui aussi avait la vision du retour. Et puis le colonel Peterson, nous l'avons évoqué tout à l'heure, qui lui alors a favorisé la création pendant la Première Guerre mondiale du corps des muletiers de Sion. C'est dire que en Grande-Bretagne et dans les pays anglo-saxons, surtout en Grande-Bretagne, il y avait une longue tradition de gens qui croyaient, n'est-ce pas, au retour d'Israël dans son pays et qui croyaient que le temps était venu, au XIXe siècle, le temps était venu pour cela et que la Grande-Bretagne devait prendre une part prépondérante dans ce retour des Juifs dans leur pays. C'est dans cette tradition que s'insinue William Eichler. William Eichler est né en 1845 à Bénarès, où son père était missionnaire en Inde. Donc, son père, qui se nommait Dietrich, était en fait un Allemand. Il était originaire du Grand-Duché de Bade. Et dès sa plus tendre enfance, c'était un homme extrêmement pieux. Dietrich, quand il était en Allemagne, avait eu comme instituteur un athée militant et qui essayait de démolir la foi de tous ses élèves avec la haute critique. Et le jeune Dietrich, qui était encore un gamin, n'est-ce pas, lui tenait tête et lui résistait, n'est-ce pas, d'une manière extrêmement forte. Dietrich Eichler avait été impressionné par l'épopée du grand missionnaire anglais Adoniram Judson. Et en 1887, il avait créé à Bâle une mission qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Krishna Mission. Lui-même était ordonné pasteur en 1844, et sur les traces d'Adoniram Judson, il se rend donc en Inde. C'est là-bas que donc il est jeune marié, donc trois enfants lui naissent, deux filles d'abord, puis ensuite le jeune William. En 1850, sa femme meurt, donc la mère de William. Et trois ans après, son père revient en Grande-Bretagne pour raison de santé. Dietrich Eichler a une passion pour le peuple juif. Et de retour en Angleterre, il se joint à une association qui s'appelle Société pour la propagation du christianisme parmi les juifs, donc une société missionnaire parmi les juifs, qui a été fondée par un certain pasteur Way, W-A-Y, en 1807. Way n'est pas seulement quelqu'un qui entend convertir les juifs au christianisme, mais aussi qui a la vision de la résurrection d'Israël. Et notamment, quelques années auparavant, il s'était rendu à Aix-la-Chapelle, au siège de la Sainte Alliance, pour demander la restauration du peuple juif en Israël dans le cadre du congrès de Vienne. Seul le tsar a donné son accord. Pourquoi le tsar, le plus antisémite des participants donc du congrès de Vienne? Eh bien, tout simplement parce que, précisément, c'était pour la Russie une bonne occasion, un bon moyen de se débarrasser de ces juifs. Les envoyer tous en Palestine, les expulser de Russie, ça faisait l'affaire du tsar. William, le jeune garçon, donc fils de Dietrich, le seul des garçons, est donc bilingue, puisque son père est allemand et qu'il vit en Angleterre. Il parle parfaitement les deux langues, et comme son père est pasteur, la question ne se pose même pas, lui aussi deviendra pasteur. Bon, il est sans mère, et ça c'est un problème, et Dietrich, qui continue son ministère, place ses enfants dans un orphelinat. C'est une période très difficile de la vie de William, du jeune William, pendant 10 ans. Il va être ballotté d'orphelinat en orphelinat, ce qui n'est pas drôle du tout. C'est un passionné pour l'histoire. Il a notamment les chartes, les cartes anciennes, les généalogies, l'archéologie biblique. Ça, il occupe tous ses loisirs à ça, tout en étudiant avec acharnement la théologie. Comme son père, il croit à la pleine inspiration de l'Écriture et il s'oppose à la haute critique. Très souvent, il contredit ses maîtres, comme l'avait fait son père en son temps. Et, entre guillemets, malgré son fondamentalisme, il est ordonné à la prestigieuse cathédrale Saint-Paul en 1869 comme pasteur donc, de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane. Mais très vite, William apparaît comme un excentrique et original de première classe, tant et si bien qu'il se fait rapidement marginaliser pour cette raison-là. En 1870, éclate la guerre franco-prussienne et William Eschler s'engage dans l'armée allemande comme chaplain. Il en retirera une grande compassion pour les Français, pour lesquels il n'avait pas de sympathie jusqu'alors, et une grande haine de la guerre. La guerre terminée, il ne sait trop que faire et il part comme missionnaire au Libéria. Pendant 3 ans, c'est l'échec. Il n'est pas fait pour être un missionnaire et il revient en Angleterre où il va végéter. Une de ses tantes est une amie de la reine Victoria. Et cette tante apprend de la bouche de la reine Victoria, qui est elle-même en liaison avec les têtes couronnées allemandes, parce que la reine Victoria est mariée avec un prince allemand, donc qui est apparenté au grand-duc de Bade, et elle apprend un jour donc la reine Victoria, dans une rencontre où est la tante de William Eschler, déclare que est-ce que quelqu'un d'entre vous connaîtrait quelqu'un pour devenir le précepteur du fils du grand-duc de Bade. Et c'est alors que la tante d'Eschler se souvient que y a son neveu là qui ne sait pas trop que faire, et elle lui demande s'il serait intéressé par le poste. Il servait en même temps de chaplain au grand-duc. Eschler, ça ou autre chose, pourquoi pas. Bon, il accepte. Il deviendra donc, en 1814, précepteur du fils du grand-duc et en même temps chaplain du même grand-duc. Le travail qu'il a à fournir là-bas n'est pas foulant, c'est pas le bagne. Eschler a beaucoup de temps qu'il occupe à étudier les prophéties. Et notamment, il fait des chartes, n'est-ce pas, pour essayer de voir comment les événements prophétiques doivent se dérouler. Et puis, en particulier, une carte messianique d'Israël qu'il soumet d'ailleurs au grand-duc. Et au fur et à mesure de ses études, William Eschler arrive à la conclusion que, d'un moment à l'autre, un nouveau Moïse va surgir pour ramener le peuple juif dans son pays. En 1876, le prince héritier, fils du grand-duc dont il était le précepteur, se tue dans un accident, si bien que son rôle prend fin, ipso facto. Donc, il va quitter le grand-duc, et il sera pendant 3 ans en paroisse. Là, il s'ennuie ferme, parce qu'il ne se sent pas tellement à sa place. Il est peu apprécié à cause de ses excentricités. Et entre 1876 et 1877, il vit un peu en marge des églises officielles. Il pense un temps repartir en Afrique, jusqu'à ce qu'en 1881, il entend parler des pogroms de Russie. Alors là, son sang ne fait qu'un tour, son amour du peuple juif se réveille. La Grande-Bretagne a décidé de créer une commission d'enquête parlementaire qui se rend à Odessa, qui est d'ailleurs dirigée par Lord Oliphant, qui est un ami des Juifs et un sioniste, peut-on dire, et qui fait nommer Eschler membre de la commission d'enquête. Il se rend donc à Odessa, et là, il prône le retour massif des Juifs. Il dit la solution des pogroms, c'est le retour des massifs des Juifs en Israël. Il rencontre Léo Pinkser à Odessa, le fondateur des Amants de Sion, et il discute avec lui. Et alors, il est indigné quand il entend que Pinkser ne fait aucune référence à la Bible, ne veut même pas entendre parler obligatoirement de la Palestine, il veut un État juif, ou n'importe où, en Ouganda, en Argentine, peu importe, à Madagascar, du moment qu'il y a un État juif. Alors là, Eschler bondit, furieux, et il prend la Bible, et il prend les textes, il dit « Mais vos prophètes, monsieur Pinkser, vos prophètes, qu'est-ce que vous en faites ?» Et il est tellement véhément qu'à la fin, Pinkser, qui est un athée, est profondément impressionné. Alors, Eschler retourne en Angleterre, et là, il rencontre la reine Victoria, il lui fait rapport de sa mission, et la reine Victoria le charge d'une lettre qu'il doit remettre au sultan, il se rend à Istanbul, pour remettre une lettre au sultan lui demandant d'admettre en Palestine les Juifs persécutés. En fin de compte, la lettre sera bloquée, n'arrivera jamais au sultan, sera bloquée par l'ambassade britannique à Constantinople qui a une autre politique. À Odessa, Eschler avait rencontré les deux grands rabbins sionistes de cette période-là, Kalischer et Al-Khalaï, et auprès d'eux, il se sent en phase complète, n'est-ce pas, préconisant comme eux le retour en Israël. En même temps, alors retour collectif en Israël et retour personnel à Dieu des Juifs, donc par Jésus-Christ. Et là, il rejoint un petit peu Rabinovitch. Pour lui, la Russie est une nouvelle Égypte dont les Juifs doivent sortir. Et il va donc comprendre que sa vocation, qu'il cherchait jusqu'à présent, eh bien, c'est de militer pour le rétablissement de Sion. Et c'est là que providentiellement, il va rencontrer donc Theodor Herzl. Ça, on verra si vous voulez la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un a... Voilà. Vous avez des questions à poser là-dessus ?